Non, non, la Bible, regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 11. Nous allons reprendre ce chapitre que nous avons débuté la dernière fois. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Nous n'allons pas aller loin de la profondeur du sujet que nous avons devant nous. Mais j'ai intitulé ce message « Un royaume de paix ». Et nous savons que dans le contexte du jugement et de la ruine prononcée par Ésaïe contre les 10 tribus du Nord qui devaient être emmenées en captivité par la nation de l'Assyrie, ici, dans ce chapitre, brille une lueur d'espoir dans le règne de Christ qui devait être établi quelques 700 ans plus tard dans sa venue dans ce monde au premier siècle. Voilà ce qui est prophétisé ici. Donc, ces paroles sont écrites pour l'encouragement du peuple de Dieu qui devait traverser ces moments difficiles, mais avoir espoir que tout ce qui se passait était selon la volonté de Dieu et que cela avait pour but de préparer la voie du Seigneur, le Messie qui devait venir. Donc, ici, je voudrais souligner 5 caractéristiques concernant le Messie, c'est-à-dire le Christ, parce que le mot Messie signifie le moins. Donc Christ, le Seigneur Jésus et son règne. Passons en revue ce que nous avons vu dans les 4 premiers versets de ce chapitre d'abord, que nous avons vu la dernière fois. C'est écrit dans le verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un jeton naîtra de ses racines. » Nous avons vu comment cela est une description de la venue du Seigneur Jésus-Christ, de la postérité promise à David, lorsque David était établi comme le roi. Cette branche qui devait découler d'Isaïe, comme nous lisons là. Isaïe était le père de David. Donc, nous voyons que le Messie promis devait être le fils de David, avec qui l'alliance de la royauté a été conclue par la grâce de Dieu, et qu'il a été promis avec serment, ce que Dieu ordonne, il accomplit que du fruit de ses reins, Dieu allait susciter le Seigneur Jésus-Christ. Voilà un résumé, si vous voulez, du premier verset que nous avons vu la dernière fois. Et nous savons que cela s'applique au Seigneur Jésus parce que dans le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 2 et le verset 30, c'est ce que nous lisons, comme il était prophète parlant de David et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Notons bien le verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est pourquoi, lorsque nous étudions ce passage dans Ésaïe chapitre 11, il y en a qui veulent dire que l'accomplissement de ce que nous lisons ici et encore pour un temps futur, un temps où ils enseignent que le Seigneur Jésus doit revenir encore du ciel et régner sur un trône physique à Jérusalem pour que cela soit accompli. Mais ce qui est clair ici dans Acte 2, c'est que il parlait de la résurrection du Christ. C'est écrit qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32, c'est ce Jésus, celui qui a été promis avec serment, que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Donc voilà ce que nous avons vu déjà la dernière fois. Et il devait apparaître, comme c'est écrit, comme un rejeton qui devait naître des racines de David. Et tout cela, Dieu l'a accompli parfaitement. Un deuxième point, parce qu'il y a cinq points à souligner ici, et ces premiers points sont déjà ce que nous avons déjà vu. Je suis simplement en train de passer en revue ce que nous avons vu. Donc, le premier point, c'est que ce Messie devait, autant établi par Dieu lui-même, être cette branche, ce végéton, qui devait naître d'un tronc. Et cela a été accompli dans la venue du Seigneur dans le premier siècle. Deuxièmement, que tous les points concernant le Christ, qui l'ont qualifié pour être le Christ, le roi de Dieu, nous voyons ici dans le verset 2. Et la dernière fois, j'ai précisé qu'il y a sept qualifications, sept descriptions ici au sujet de l'Esprit de Dieu qui était dans ce Messie, le Seigneur Jésus. Et le chiffre 7 représente la perfection. Ce n'est pas qu'il y a 7 esprits, mais ces 7 descriptions décrivent les qualifications du Seigneur Jésus, ce qui qualifie de qualifier d'être le oint de Dieu. Et c'est écrit, premièrement, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est de ça que nous tirons le sens du mot « oint », d'être « oint » de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes qui étaient mis à côté, mis à part par l'huile, l'onction, et aussi les rois et les sacrificateurs. Christ est représenté dans les trois fonctions. Et ici, donc, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça, c'est la première qualification. Deuxièmement, il avait l'esprit de sagesse. Troisièmement, l'esprit d'intelligence. Et nous avons vu la distinction entre ces deux. Nous connaissons peut-être des gens qui ont peut-être une grande connaissance en ce qui concerne des faits, des choses, mais pas une grande intelligence. Christ avait non seulement l'esprit de sagesse, mais aussi d'intelligence. L'esprit de la sagesse de la volonté de Dieu, connaissant parfaitement son Père qui l'a envoyé, et aussi l'intelligence de pouvoir accomplir tout ce que sa justice exigeait pour qu'à la fin, il soit véritablement le sauveur de son peuple. Donc, voilà les trois premières qualifications. Et puis, quatrièmement, l'esprit de conseil. Il est venu accomplir le conseil de Dieu à l'égard de son peuple, mais aussi de force. Ce mot « force » représente la puissance de pouvoir accomplir tout ce que la loi exigeait à l'égard de son peuple. Donc, nous voyons prochainement l'esprit de connaissance. Ça, c'est la sixième qualification. Et cela est aussi différent que sagesse et intelligence, connaissance. Nous avons étudié cette différence la dernière fois, où cette connaissance, c'est la capacité, le pouvoir de regarder chaque aspect de la loi et non seulement accomplir la lettre de la loi, mais même l'esprit de la loi par une obéissance parfaite. Et puis, septièmement, l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça, ce n'est pas la peur, mais une crainte signifie une affection respectueuse qu'il avait pour son père, comme son serviteur. Et dans Hébreux 5, 7, c'est écrit qu'il a été exaucé en ce qu'il craignait son père, accomplissant tout ce qui était nécessaire. C'était ce qu'il a accompli à l'égard de son peuple qu'il a été exaucé. Mais troisièmement, nous voyons dans le verset 3, et encore, ça c'est une révision de ce que nous avons vu la dernière fois, nous voyons que c'est précisé ici avec une exactitude la manière que son gouvernement en tant que Messie, lorsque nous parlons du Messie, nous parlons de l'établissement de son royaume. Son royaume n'était pas naturel, ce n'était pas d'une manière à frapper les yeux comme les gens anticipaient lorsqu'il est venu dans le premier siècle, mais un royaume spirituel qui devait comprendre ce que le Père avait donné à son Fils avant la fondation du monde et pour qui maintenant Christ devait venir dans ce monde et accomplir le salut. Donc le verset 3 nous donne la manière qu'il devait juger en tant que roi, mais aussi en tant que sauveur de son peuple. C'est écrit, il respirera la crainte de l'Éternel. La respiration, tout son être était dans la crainte de l'Éternel pour satisfaire à la justice de son Père. Et c'est écrit, il ne jugera point sur l'apparence. Voilà comment l'homme juge. C'est l'apparence, c'est l'extérieur. Mais la justice que Christ est venu établir n'était pas une justice de l'extérieur. Les gens peuvent bien s'habiller comme ils veulent et se présenter comme étant droit devant Dieu avec leurs œuvres, mais rien dans cela ne satisfait Dieu. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Voilà comment nous raisonnons. Nous entendons quelque chose et puis alors nous tirons nos conclusions sur un oui-dire. Mais Christ connaît parfaitement non seulement le Père, mais le cœur de ceux qu'il est venu sauver et il n'y a rien en nous qui puisse satisfaire à Dieu le Père. Donc c'est pourquoi Christ est venu et qu'il a dû satisfaire avec une obéissance parfaite ce qui était à la satisfaction de son Père. Pas sur l'apparence, mais sur une exactitude dans la satisfaction de la loi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait l'esprit sans mesure. Dieu était en lui et toute la divinité demeurait en lui. Voilà ce que les gens ne voyaient pas. Eux, ils l'ont jugé sur l'apparence. Ils ont jugé le Seigneur Jésus aussi. Ils ont prononcé leur jugement sur un oui-dit, n'ayant pas la révélation de Christ en eux, mais tous ceux en qui Christ s'est révélé. Ils n'ont pas jugé Christ par l'apparence, parce que par l'apparence, Ils ont vu un simple ombre, mais c'est par la révélation de l'Esprit qu'ils voyaient donc en cet ombre rien d'autre que Dieu lui-même dans la chair. Et cela exige donc la révélation de l'Esprit de Dieu. C'est la seule manière que nous pouvons le connaître aujourd'hui. Autrement, on serait avec les autres qui ont jugé selon l'apparence et prononcé selon un huis-dit. Je dois dire que c'est comme ça que la plupart d'entre nous ont été élevés dans la religion. Quelqu'un nous a dit, voilà ce qu'il faut croire et voilà ce qu'il faut faire, et nous avons suivi aveuglement leurs instructions sans savoir que rien dans cela ne pouvait satisfaire à un Dieu saint. Il fallait la révélation de Christ au cœur, et c'est pourquoi aujourd'hui, si nous connaissons Christ, c'est grâce à ce même esprit qui était en lui, qui est révélé dans son peuple, et c'est pourquoi nous le connaissons. Donc ça, c'est une troisième qualification concernant Christ. Et tout cela, nous avons vu la dernière fois. Maintenant, quatrièmement, nous voyons à partir du verset 4, ici, une précision concernant la manière que Christ lui-même devait sauver des pécheurs. Verset 4 dit, il jugera les pauvres avec équité. Quand nous voyons ce mot pauvre, il ne faut pas simplement imaginer qu'il s'agit des pauvres physiques, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pauvres. Même lorsque Christ marchait sur la terre, il ne s'occupait pas d'eux. Même il a dit à ses disciples, vous avez toujours les pauvres avec vous. Et l'instruction est simplement pour ceux qui ont quelques biens, s'ils peuvent partager ça avec les pauvres, donc c'est une bonne manière d'agir. Mais en ce qui concerne notre état spirituel, voilà de qui il parle ici. Qu'il jugera les pauvres avec équité. Le mot équité signifie justice. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Cela nous montre que la manière que Christ est venu sauver ceux qui sont pauvres signifiant que nous n'avons rien en nous-mêmes qui puisse nous recommander à Dieu et que nous sommes plus que tous des malheureux sous le jugement de Dieu, mais que Christ devait établir et accomplir une justice à leur égard. C'est de cette manière qu'il juge les pauvres et qu'il prononce avec droiture sur les malheureux de la terre. Ça, c'est une vérité, Paul le dit, qui est digne de toute acceptation que Jésus-Christ est venu dans le monde sauver qui? Des pécheurs, les pauvres, les malheureux. Et il a même ajouté, donc je suis le premier. Je crois que une fois que l'Esprit révèle Christ en nous, ça c'est notre attitude. Nous nous considérons comme les premiers parmi les pauvres, les premiers parmi les malheureux. Telle est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et donc, cette justice, cette équité dont il est venu prononcer avec droiture, signifie qu'il devait accomplir parfaitement le salut à leur égard et devait plaidoyer une justice devant Dieu pour ce peuple pauvre et opprimé, c'est-à-dire étant leur protecteur, étant pour eux leur avocat. C'est ce que Christ est pour son peuple, son avocat. Et devait plaidoyer en justice contre toute oppression, tout ennemi. Nous avons des ennemis en tant qu'élus de Dieu. Le monde est notre ennemi, cette nature pécheresse est notre ennemi, et la loi est notre ennemi. Mais en tout cela, Dieu fait grâce à travers l'œuvre de Christ. Quand c'est écrit, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc l'œuvre de Christ était de double tranchant. D'un côté, ça devait sauver les pécheurs qu'il est venu sauver, et en même temps, ça devait aussi juger le reste, ceux qui étaient abandonnés à leur sens réprouvé. Telles sont les qualifications de ce Messie qui est venu dans ce monde. Mais maintenant, reprenant à partir du verset 5, nous voyons ici les caractéristiques de Christ qui l'ont qualifié pour être le prince de paix, le chef de paix dans ce royaume qu'il est venu établir. Et c'est écrit, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Voilà pourquoi le salut ne dépend pas de nous. Il exigeait que Christ vienne et que la justice soit établie pour lui. Ici, c'est écrit, la justice sera la ceinture de ses reins. Donc, cela n'est pas simplement une justice extérieure, mais tout ce que Christ est venu accomplir devait parvenir lui-même d'une justice en lui-même qui était maintenant la satisfaction de Dieu. Son Père, une ceinture, c'est ce qui entoure quelqu'un. Et donc, tout ce qu'il est venu faire, c'était pour accomplir la justice de Dieu. C'est ce que le Père exigeait. Et il était donc le seul qui pouvait faire cela, accomplir cela comme le substitut de son peuple. Mais maintenant, nous voyons comment son royaume, grâce à son œuvre parfaite qu'il a accomplie dans les versets qui suivent, verset 6 jusqu'au verset 9, nous voyons la grande paix et la grande tranquillité que son règne devait effectuer à l'égard de son peuple. C'est pourquoi nous avons vu dans Ésaïe, chapitre 9 et le verset 6, qu'il était le prince de la paix. Voilà ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié cela. 9:5, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est écrit, donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc, ce qui est décrit ici dans le verset 6 décrit l'unité ou bien concorde qui devait être établie à travers l'œuvre de Christ. Quand c'est écrit, le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Comme j'ai dit, il y en a qui imaginent que cela doit se passer dans un temps au futur, dans un royaume terrestre, qu'on appelle le millénium. Mais dans le contexte, nous sommes en train de voir cette paix que le Seigneur Jésus devait accomplir à sa première venue. Donc, ce langage qui est utilisé ici est au sens figuré. Quand ça parle du loup qui devait habiter avec l'agneau, vous savez, les Juifs considéraient les païens comme des loups. Mais ici, nous sommes en train de voir que lorsque Christ a établi son règne, lorsqu'il a donné sa vie et son royaume était établi par son sang versé jusqu'à la mort, que il y avait comme effet donc la réconciliation, non seulement des pécheurs avec Dieu, mais ceux pour qui il est mort, cette réconciliation les uns avec les autres. Et lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament et nous comprenons les difficultés, les conflits qui ont surgi quand Dieu a commencé à faire entrer dans les assemblées des païens, ceux avec qui les Juifs n'avaient jamais l'habitude de s'asseoir et manger, mais en Christ maintenant, il y avait cette unité. Voilà ce qui est décrit ici sous différentes formes de symboles. Le loup qui habitait avec l'agneau, la panthère, devait se coucher avec le chevreau. C'est quelque chose que nous ne voyons jamais dans la nature, mais spirituellement, cela s'est réalisé par la réconciliation de Christ. Le veau, le lionceau, avec le bétail. D'habitude, ce sont les lionceaux qui attaquent les bétails. Mais c'est écrit, ils seront tous ensemble, même un petit enfant les conduira. C'est ce que nous devenons lorsque le Seigneur convertit nos cœurs. Nous sommes comme des petits enfants qu'il conduit par sa grâce. C'est de cette paix que l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens et le chapitre 2. Remarquons que l'épître aux Éphésiens était écrit aux païens, ceux qui n'étaient pas des Juifs. Éphèse était hors du pays d'Israël. Mais dans le verset 14, ou bien commençons dans le verset 13 d'Éphésiens 2, il dit: mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, comment? Par le sang de Christ. Donc, pensons au loup, parce que c'est comme ça que les Juifs considéraient les païens. Pensons à la panthère, des gens qui étaient des ennemis des Juifs, mais maintenant, par le sang de Christ, c'est écrit, il est notre paix. Lui qui des deux, c'est-à-dire de païen et de juif, n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Quel est ce seul homme nouveau? Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est son royaume qu'il est venu établir, dont nous voyons prophétiser ici. C'est pourquoi je dis que ce passage dans Ésaïe 11 trouve son accomplissement dans les faits merveilleux de Christ et de son évangile sur les pécheurs qu'il est venu sauver. C'est écrit, verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage. Quel que soit l'arrière-plan d'un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, quel est son pâturage? C'est le pâturage vert dont nous lisons dans Psaume 23, où Christ dirige ses brebis et nous nous nourrissons tous du même pâturage, c'est-à-dire l'évangile de Christ et la bonne nouvelle de sa mort accomplie pour les pécheurs. C'est écrit, leur petit en même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Quelle est notre paille? Quel est le pâturage dans lequel nous nous nourrissons? c'est la personne de Christ et c'est son œuvre accomplie pour nous. Et verset 8, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Cela veut dire qu'en Christ, il n'y a rien qui peut maintenant nous séparer de lui. Il n'y a point de condamnation. Et même, comme ici, ça parle de la vipère, Christ est ce serpent et il cherche à qui il peut dévorer. Mais si nous sommes en Christ, rien ne peut toucher à un enfant de Dieu pour qui Christ est leur réconciliation et leur paix. Quel que soit notre passage dans ce monde avec les dangers du monde et de l'ennemi, surtout de Satan et de cette chair, mais nous sortirons tous vainqueurs, pas à cause de quelque chose en nous, mais à cause de Christ. Voilà ce que ça signifie. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Qu'est-ce que cette montagne sainte représente? Ça représente là où Christ a établi cette justice. Il est venu et il a donné sa vie afin que Dieu soit satisfait. Et ensuite, c'est pourquoi c'est écrit, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Quand c'est écrit, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, ça c'est la prédication de l'Évangile. C'est pas la prédication de l'Évangile. C'est pourquoi, après sa montée au ciel, Christ a donné cet ordre à ses disciples d'aller attendre la venue de l'Esprit, cela dans Actes chapitre 1. Et lorsque l'Esprit était donné, c'est ainsi qu'il devait aller. Et c'est écrit dans verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, nous voyons ça prophétisé ici dans Ésaïe 11, 9, que toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Il y en a qui pose la question, mais si Dieu a déjà choisi ceux qui doivent être sauvés et Christ est déjà mort pour cela, pourquoi donc prêcher l'Évangile? Mais nous savons dans Romains chapitre 10 que c'est de cette manière que Dieu a ordonné à ce que la connaissance de Christ soit répandue partout dans le monde, partout où il a ses élus, qu'il a racheté de tout peuple, mais de toute langue, de toute tribu. C'est pourquoi dans Romains chapitre 10, c'est écrit que cette parole, dans le verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Qu'est-ce que nous pouvons dire concernant le fait que nous connaissons aujourd'hui le Seigneur Jésus? C'est seulement parce qu'il a plu à Dieu de faire venir là où nous étions, là nous sommes, ce message de Christ. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est vrai, Dieu a choisi ceux qu'il a sauvés par le sang de Christ, mais il a aussi choisi le moyen que ceux-là, chacun, doivent maintenant entendre et croire. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. C'est écrit, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce que qu'on entend, c'est écrit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout cela est selon l'ordre du Seigneur, mais c'est de cette manière que Christ est venu établir ce royaume de paix. D'abord par son obéissance à la justice de Dieu, et puis ensuite en envoyant ce message à travers la prédication de l'Évangile partout dans le monde. Et c'est ainsi que chacun de ceux que Christ est venu sauver sera amené et établi dans ce royaume. Et ça doit continuer comme ça jusqu'à la fin. Quand le dernier que Christ a sauvé par son sang est appelé à travers l'Évangile prêché, c'est ainsi que la fin doit venir. C'est là que sera la fin et Christ reviendra et il amènera auprès de lui tous ceux qu'il a rachetés et ils bénéficieront à jamais pendant toute l'éternité de ceux qu'il a rachetés. Et nous serons autour de lui. Nous allons tirer maintenant, une pause là, à la fin du verset 9, parce que le verset 10 jusqu'à la fin continue de nous montrer comment ce royaume de Christ devait être établi au moment où Isaïe écrivait cela. C'était encore dans l'avenir. Mais lorsque nous lisons cela maintenant, nous voyons comment cela est maintenant établi. Que le royaume de Dieu dans la paix est maintenant une réalité et ça continue. Même si le monde ne peut pas percevoir ce royaume, nous savons que ça prend l'œuvre de l'Esprit d'ouvrir les cœurs. C'est ce que Christ a dit à Nicodème qui lui posait des questions sur la nouvelle naissance. Et comment se peut-il qu'un homme puisse naître de nouveau. Pour lui, il a essayé de comprendre cela dans un sens naturel. Mais Christ lui a dit dans Jean 3, 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et quand il dit naît d'eau, l'eau est symbole de l'esprit. Une autre manière de lire ça, si un homme ne naît d'eau, même d'esprit, comme il y a la vie dans l'eau, ainsi la vie est dans l'esprit, mais c'est écrit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas percevoir le royaume de Dieu, si ce n'est à travers l'esprit. Et si nous avons une connaissance de Christ, ce n'est pas puisque nous sommes plus intelligents que les autres, mais il a plu à Dieu, non seulement d'établir Christ comme notre prince de paix, celui qui devait nous réconcilier, mais aussi comme celui qui règne maintenant dans nos cœurs et qui nous conduit dans sa grâce à jamais. Que le Seigneur bénisse cette parole que nous